Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, un échange avec une femme pleine de surprises et sans langue de bois. Une femme qui s'ouvre, qui se découvre, qui se donne, qui partage et puis qui se raconte et qui se livre. Allez, on y va pour ma femme d'aujourd'hui.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatiha Fellous, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, la Fatiha?
Alhamdoulilah, merci à toi pour cette charmante invitation surtout.
Alors Fatiha, justement, une femme a plusieurs vies. C'est comme ça qu'on peut vous introduire?
Oui, plusieurs vies. Je le dis souvent, j'ai plusieurs vies, ouais. Plusieurs chapitres.
Ah, justement, Afti, pas plus tard qu'hier, Afti, dès que l'état, quand on est au volant et son esprit s'évade,
oui.
Et j'étais en train de me dire, j'étais en train de conduire, et de me dire, est-ce que, en fait, je revis à chaque fois une nouvelle vie? Ou bien, c'est une vie qui se transforme. J'ai eu l'impression, en me disant je revis, ça veut dire que les autres vies revis dans le sens rebirth, renaissance en fait. Si je renais, c'est que les autres n'étaient pas bonnes, n'étaient pas importantes. Alors qu'elles contribuent à qui je suis aujourd'hui. J'étais en train de me dire quel est le mot qui qualifierait le mieux ces femmes, nous les femmes, qui avons plusieurs vies. Est-ce que ce sont des renaissances? Ou bien des, comme un livre en fait, vraiment, des chapitres qui se tournent.
Moi, je dirais plutôt que c'est des renaissances par moment, parce qu'on est transformé. C'est des transformations en fait. On grandit, on évolue et c'est un cheminement. Chaque étape, chaque phase, chaque chapitre, chaque vie entre parenthèses, chaque expérience, eh bien, nous rapproche de la version qu'on est supposé être. Et on peut utiliser plusieurs mots. Moi, j'aime beaucoup le mot transformation, cheminement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de renaissance. Et c'est vrai que dans certains cas, on parle de renaissance, et à juste titre, parce qu'il y a une coupure littéral entre l'ancienne version et la nouvelle version. Je ne pense pas que ce soit mon cas. Je ne peux pas parler de renaissance. J'aime avoir ma vie comme étant une vie riche où j'ai eu la chance, le privilège, même si c'était dans la douleur, de faire des choses différentes. Et c'est toute cette richesse qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis et j'aime cette personne. Et je ne changerai ça, rien au monde, même si le cheminement a été dur. Donc, c'est généralement dans les expériences difficiles et négatives qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on devient résilient et qu'on se relève et qu'on on démarre encore un nouveau chemin ou une nouvelle renaissance, si certains aiment l'appeler ainsi.
Si tu devais, Fatiha, repérer ce moment unique de ta transformation, ce moment unique, douloureux, parce qu'à un moment tu as dit c'était dur et tu as insisté sur le dur, tu as appuyé sur ce mot. C'était quoi ce moment dur?
Il y en a eu beaucoup. Ils étaient différents à chaque situation, à chaque situation conflictuelle, en fait. Ça pouvait être le moment où je me rends compte que je ne suis pas avec le bon partenaire. Ça pouvait être le moment où je me suis sentie humiliée. Ça pouvait être le moment où je me suis sentie rabaissée. Ça pouvait être le moment où je me suis sentie mal dans mon être parce que je n'arrivais pas à gérer ma fille, ado. Ça pouvait être le moment où au travail c'était injuste, ça pouvait être le moment où le système judiciaire, plutôt dans le droit de la famille, était injuste et que la justice, en fait, ne protège pas la femme.
Tu l'as vécu, toi, personnellement, ça ?
Oui. À deux reprises. Dans les deux, j'ai été mariée deux fois, j'ai divorcé. Ça a été moi qui ai demandé le divorce. Et la première fois, la Moudouana n'était pas encore votée.
Ok, d'accord. Et donc, tu t'es mariée très jeune et divorcée très jeune.
Pas si jeune que ça, quand j'y pense. J'avais 26 ans, je crois, quand je me suis mariée. Et j'ai divorcé difficilement, parce qu'il a refusé de divorcer. Et j'ai dû, pour avoir mon divorce, pour avoir ma liberté, j'ai dû sacrifier mes droits élémentaires et les droits de ma fille. Mmh. C'est-à-dire que c'était la condition pour que j'obtienne mon divorce, c'est que je me désiste sur la pension alimentaire.
D'accord. Ça, c'était avant 2004.
Ça, c'était avant 2004,
parce que la Moudouana est arrivée en 2004.
Exact. Mmh. Voilà.
Alors justement, il y a eu la Moudouana, tu as vécu un autre divorce. Pardon. On dit souvent que, on entend souvent, maintenant peut-être qu'avec toi on va pouvoir le vérifier, on entend souvent qu'il y a une différence entre les textes et leur application.
Oui.
À quel niveau, de par ton expérience ?
C'est dans le détail. On dit d'ailleurs le diable se cache dans le détail.
Ouais.
Mais c'est ça. Mon expérience, mon vécu, mon ressenti, pas simplement le mien, parce que j'ai eu quand même beaucoup d'amis, de femmes. Je m'intéresse énormément aux relations couple et à l'humain, et surtout aux relations. Mmh. Et donc j'entends, je vis avec eux. Et c'est vrai que c'est dans l'application même du texte que la difficulté est là. C'est vrai qu'en règle générale, on dit oui, ce doit être ça, il doit payer. Mais en réalité, ben non, il peut ne pas payer, mais ça va se faire autrement. Mmh. Par exemple, là, j'ai une amie, ça fait plusieurs années qu'elle est divorcée. Et le juge a donné un montant de pension qui est dérisoire, alors qu'il a un salaire conséquent. Elle a fait un appel. L'appel a été rejeté. Elle a fait un deuxième appel. Quand elle a fait l'appel, elle a appuyé le fait. Elle a prouvé, parce qu'il faut prouver, en fait. Il te dit, va me chercher les preuves. Alors que c'est ridicule. Tu ne peux pas aller demander à une banque, ou plutôt à la banque de ton époux, de
le relever, exactement.
Parce qu'il demande relevé et bulletin de salaire. Attends, bulletin de salaire, relevé. Et cette amie en question, elle a réussi à avoir son salaire indirectement via la CNSS, via les cotisations CNSS, qui revient au même. Et tu te rends compte que le juge n'a pas changé d'un iota sa décision. Mieux que ça, il lui a dit, ouais, mais ce monsieur, si se remarie, il doit avoir un peu d'argent pour se remarier.
Okay.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tu t'es marié, tu ne veux pas assumer ton enfant, mais le juge cautionne le fait que oui, tu as le droit d'aller papillonner, créer un autre foyer et délaisser celui-là.
Ouais.
Voilà. Donc il y a un nombre incalculable d'injustices et c'est vraiment dans le détail, dans l'application du détail. Par exemple, dans mon cas, il y avait une étape qui m'avait aussi un petit peu traumatisée, on va dire. C'était juste au moment où j'ai divorcé, c'était le deuxième divorce. Et mon ex-mari est français. Et chaque année, on allait passer nos vacances à l'étranger. Et donc, cette année-là, où on a divorcé, il voulait emmener mon fils, notre fils, tout seul, en France. Et le divorce venait d'être prononcé d'un mois ou deux. Donc, il n'a aucune attache, en fait, au Maroc. Il peut, du jour au lendemain, il a eu un travail. Et voilà, donc, mais il pouvait du jour au lendemain, sa maison est en France, tout est en France, sa famille est en France. Donc, il n'y avait aucune possibilité que. Enfin, il y avait toutes les possibilités qu'il puisse prendre mon enfant et que je le revoie plus jamais. Et ça a été compliqué. Parce que sur un plan juridique, pour bloquer, il fallait que je bloque aux frontières. Si je bloque aux frontières, ça allait créer. C'était toute une procédure. Enfin, c'était juste un cauchemar. Mmh. Voilà. Le mot qui me vient, c'est cauchemar. Et à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que j'ai des copines qui vont dans cette situation de divorce, de séparation, entre les avocats et l'application, c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué.
Justement, parmi ces vies-là que tu as eues, il y a eu la vie en entreprise. Il y a eu le diplôme à l'ISCAE, le MBA aux États-Unis, une autre spécialisation au Bahreïn. C'est bien ça?
Mmh. Oui.
Tout ça dans la finance. Et puis aujourd'hui, tu es dans le mieux-être.
Oui.
Explique-moi le changement. En fait, l'implication que tu as eue à étudier autant d'années pour au final tout mettre de côté ou presque, et t'orienter vers autre chose, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as choisi la finance par vocation, par choix des parents?
Je n'ai pas choisi la finance par vocation, honnêtement. Ben, l'histoire est très drôle. Quand j'étais au bac, bon, j'avais comme projet d'avoir en fait un travail rapide. Et je ne voulais pas faire des études longues, en fait. Mmh. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que je voulais être rapidement en vie active pour être indépendante financièrement et ne pas être un fardeau pour mes parents. Je voulais aider mes parents. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire un bac plus 2, un BTS, un truc du genre, pour pouvoir travailler rapidement. Il se trouvait que j'avais quand même de très, très bonnes notes. Et sans le savoir, mon prof est parti. Un jour, on a eu la discussion avant, il m'a dit « qu'est-ce que tu comptes faire ?» Et je lui ai dit « écoute, je crois que je vais faire un BTS, comme ça je rentre en vie active rapidement. Ça ne m'intéresse pas les études supérieures longues. Mmh. » Et sans le savoir.
Mais ça ne t'intéresse pas ou tu ne voulais pas te le permettre? Parce que tu as dit
« je ne voulais pas me le permettre, ouais, en fait. » Ça, ouais, m'intéressait, c'était un luxe. Et je me suis dit « non, je n'ai pas les moyens, mes parents n'ont pas les moyens. » Donc, il faut être pragmatique. Mmh. Donc, j'étais dans le sacrifice, à vrai dire.
C'est
j'étais
ça. Pas... Ah, mais c'est pas... Oui. En réalité, oh, c'était non. ça.
Oui, j'étais dans le sacrifice. Je voyais mes parents et je voyais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et du coup, il m'avait parlé de l'ISCAE à l'époque. Mmh. Et il m'a dit, tu connais? Je dis, oui, je connais. Il me dit, tu sais, c'est bien. Ouais, ouais, je sais. Et il m'a dit, mais tu as de bonnes notes. Ouais, je sais. Mais écoute, l'ISCAE, c'est 4 ans. Moi, en 4 ans, c'est trop long, mes parents... Et il est parti. Il a déposé, sans que je le sache, mon dossier. Et un jour, j'ai été convoquée en me disant bah, « vous avez été sélectionnée mmh. ». Et sur dossier, d'abord. La première sélection se fait sur dossier. Et ensuite, tu as l'examen.
Ouais.
Et donc, on m'a sélectionnée. Je suis partie faire mon examen. L'écrit, j'ai été sélectionnée. Il fallait que je passe l'oral. J'ai été sélectionnée à l'oral. Et je me suis retrouvée à l'ISCAE.
Et tes parents, ils étaient pour que tu arrêtes ou que tu fasses des études rapides, courtes, ou bien ils ne voulaient pas que tu te sentes responsable?
Non, j'avais le choix, en fait. Hein. Je suis enfant unique, donc j'ai toujours D'accord. été responsabilisée. Et, très jeune âge, j'accompagnais mes parents chez le médecin alors que j'avais 12 ans. J'étais une gamine, j'allais voir le cardio, j'écoutais qu'est-ce qui se passait, pourquoi papa était malade, pourquoi il doit arrêter la cigarette, ça veut dire quoi, une hypertension artérielle. Mm. Et j'ai eu, en fait, j'ai endossé ce rôle très jeune où je faisais attention un petit peu à mes parents sur leur santé. Et voilà, donc j'étais, on va dire, assez mature, assez jeune, mais curieuse aussi. Mm. Et je pense que c'est cette curiosité-là qui a fait que je me suis intéressée à tout en même temps, mais aux choses qui m'intéressaient. Mmh. Le mieux-être, la santé, la nutrition, ça a toujours fait partie de ma vie.
Mmh. C'est en fait un homme qui t'a, on va dire, entre guillemets, tu n'as pas eu de chance dans le couple, mais c'est aussi un homme qui t'a aidé dans ta construction.
Oui, oui, tout à fait. Mm. D'ailleurs, c'est professeur Kamasa qui est décédé, un grand monsieur. Et c'est lui, c'est grâce à lui que je me suis retrouvée à l'ISCAE. Mm. Mais bon, une fois à l'ISCAE, il y avait des bourses. Je ne savais pas, moi, je ne m'étais même pas intéressée.
Ouais.
Je n'avais même pas pris la peine de chercher. Et voilà comment je me suis...
Et tu habitais à Casa même?
Oui, c'était à Casa. Mon MBA, je l'ai fait aux États-Unis, par contre.
Alors, l'MBA, justement, pour une fille qui voulait arrêter pour pas être un fardeau pour ses parents, comment tu as pu aller aux États-Unis?
Ben, disons que quand j'ai fait l'ISCAE, les choses étaient différentes parce que je me retrouvais propulsée dans une école d'élite quand même, où un travail était garanti. Donc je n'avais plus ce sentiment en fait, de continuer ou de ne pas continuer les études. Ça y est, j'étais bien. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que j'avais envie de faire mon MBA. Pendant que j'étudiais, j'y ai pris goût, j'ai adoré mes années à l'ISCAE, c'était magnifique, j'en garde un excellent souvenir, une belle vie. D'ailleurs, c'est une famille, on se sent une communauté très soudée. Et je voulais aller plus, justement. Donc, quand je faisais mes études, je rêvais de faire mon MBA. Et je me disais, bon, bah, t'as pas les moyens. Je commençais à chercher encore comment je peux faire une bourse, si, ça. Je commençais à chercher déjà.
Oui.
Et finalement, c'est arrivé autrement. Pas par une bourse, mais par un mariage.
Et tu es partie avec lui et tu as fait ton MBA là-bas.
Exactement, ouais. Mon MBA et puis ma fille aussi. Et puis après, j'ai décidé de rentrer.
Tu as aimé ces années ou pas?
Il y avait des moments joyeux et des moments malheureux. Mais j'aime toujours, je veille à me dire, ok, voilà la situation, elle n'est pas joyeuse, mais je vais prendre le meilleur de ce que cette situation m'offre ou que le bon Dieu m'offre. Donc j'aime avoir que, bah oui, c'est vrai, je ne suis pas heureuse, j'ai ça, ça, ça. Mais bon, je suis en train de... Il y a un sens dans ma vie. Voilà, c'est important d'avoir du sens et de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et pour moi, les États-Unis... je voyais ce rêve, en fait, mon rêve, c'était d'avoir mon MBA. Et je voyais ce rêve-là, donc en plus de vivre aux États-Unis. Et du coup, bon an, mal an, on va dire, malgré les épreuves difficiles que j'ai dû traverser, je me disais, pourquoi je le fais? C'est pour avoir mon MBA. Et donc, je n'ai pas lâché.
Tu l'as très vite épousé, ce monsieur?
Oui, je me suis dit, bah, peut-être que je m'égare dans mon interprétation du mariage, du couple. Et voilà. Et je pense que il y a eu un déclic qui a fait que j'ai accepté et qu'on s'est mariés très rapidement. Mais en même temps, j'étais consciente. Je me suis dit, bon, bah, l'intention est là. Pourquoi pas? Essayons, voyons. Peut-être qu'on s'entendra bien. Que je me suis rendu compte que on ne voulait pas les mêmes choses, que les missions n'étaient pas comprises. Voilà, c'était pas le même niveau.
Ouais.
Voilà.
Alors, justement, les États-Unis, les études, etc., le MBA, le deuxième master, et puis aujourd'hui dans le bien-être. C'est justement, Fatiha, j'ai du mal à te suivre.
Eh bien. On a tous nos passions, je crois.
Oui.
Donc, mon travail en banque était épanouissant par moments un peu moins, très stressant. Et naturellement, j'ai toujours été attirée et très curieuse sur les thérapies alternatives. Et c'était d'abord pour moi, pour me soigner moi, pour soigner ma petite famille, pour aller mieux moi. Donc, ça a commencé déjà par une réflexion interne. Quand je ne suis pas bien, quand mes parents ne sont pas bien, je me posais des questions. Très bien, il a ça. Non, ok, donc le médecin, qu'est-ce qu'il dit ça? J'ai toujours eu cette curiosité de nature, voilà, déjà. Et là, c'est une petite anecdote qui est remontée quand j'écrivais mon livre, en fait. Parce que je me suis posé la question, mais pourquoi je me suis intéressée à la nutrition? Pourquoi? D'où ça vient ce truc? Mes parents ne sont pas dans ça du tout. Donc, pourquoi j'ai ça? Et en fait, j'ai eu la réponse. À l'âge de 11 ans, j'ai eu ma première bicyclette et j'avais le droit d'aller m'inscrire dans une sorte de bibliothèque où mon père travaillait. Et je me souviens de cette image, encore elle est fraîche, je prenais mon vélo Et je suis partie justement dans cette bibliothèque. Et je rentre et je marche au milieu des livres, des rayons, plusieurs. Et c'est comme si j'étais attirée, comme un aimant. Naturellement, je rentre et je vais et je me retrouve sans m'en rendre compte devant le rayon bien-être et santé. Et de tous les livres que je vais prendre, c'est un livre sur la nutrition que j'ai à ce jour.
Oui, et tu ne l'as pas rendu ?
Non, je ne l'ai pas rendu. Trop drôle. Hein.
Il faut savoir que c'est toi qui l'as gardé. Hein.
Et c'était la première édition. Elle venait de sortir en 1987.
Ouais.
Il y avait tout dedans. Il y avait l'alimentation pour les ados, pour les femmes enceintes, les vitamines, les minéraux.
Mais tu dis, je ne sais pas, mais je pense que c'est. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est en rapport avec la santé de ton papa, peut-être, l'Arhamon.
Peut-être. Peut-être, je voulais aider. Ouais.
Mais tu as écrit un livre aussi.
Oui.
Yek, un livre sur quoi ? Sur le jeûne intermittent pour les femmes.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui t'a poussé ? Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire ? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la... Je pense que c'est la préménopause.
C'est vrai que la préménopause a été cauchemardesque pour moi.
Ouais.
Parce que c'est arrivé à un moment de ma vie où tout allait de travers. Il y avait un divorce, il y avait une ado complètement
ado.
Irrationnelle. Et... oui, voilà.
Complètement ado.
Il y a des ados, il y a plusieurs niveaux d'ados, mais ouais. Bon, c'était violent, c'était très violent. Elle m'en voulait parce que, justement, j'avais...
Divorcé.
J'avais demandé le divorce et que ben, pour elle, c'était son papa de cœur, elle l'adorait. Et voilà, donc pour elle, c'était comme si je l'arrachais, elle était encore abandonnée.
Mmh. Et, c'est son papa de cœur, c'est pas son papa biologique.
Oui, oui, voilà.
C'est ça.
Pas son géniteur.
C'est pas son géniteur, exactement.
J'utilise ce terme à bon escient d'ailleurs.
Ok, ok.
Géniteur.
D'accord.
Et du coup, sur le plan professionnel aussi, j'étais dans une phase où c'était pas ça. Donc, ma maman qui a des problèmes de santé, donc c'était vraiment un tout. Et donc, tout ça est venu déclencher ma vie de cœur. Ben, c'était patatras, le deuxième divorce. Donc, c'était quand même dur émotionnellement. Et puis même financièrement aussi, je me suis retrouvée dans une situation financière très délicate et très stressante. Je tombais des nues par rapport à la personne que je pensais qu'il allait assumer son rôle financier de papa, et que non, en fin de compte. Et j'ai eu à prendre des décisions lourdes, enlever mon fils de la mission, par exemple, mais je n'avais pas d'autre choix. Voilà, donc c'était une phase.
Parce que tu as eu un enfant avec lui aussi.
Oui.
Ouais. Oui. Donc ça, tu l'as vécu, toi, devoir enlever ton enfant d'un système à un autre parce que tu n'avais pas... Alors, Fatiha, excuse-moi quand même, je suis peut-être un peu intrusive, mais quand on a fait toutes les études que tu as faites, en général, on gagne bien sa vie.
Mm-hmm. Oui.
On est presque une femme... on est une femme indépendante. Est-ce que financièrement, malgré tout, on ne s'en sort pas ?
Bah, tu sais, quand tu... Allez, on va faire un petit exercice.
Allez, vas-y.
Tu veux bien. On va prendre une moyenne de salaire de, allez, 25 000 dirhams.
OK.
OK, ou allez, 20 000, on va dire, pour un cadre moyen sup. Mm. 20 000 dirhams, tu enlèves crédit logement.
Oui.
Allez, combien on va enlever ?
7 000 ?
Voilà,
okay.
8 000. Tu enlèves les charges de la maison, téléphone, etc., syndic. On va arrondir à 10 000. Très bien.
Parce qu'une fois Mais tu n'as pas essayé de changer de boîte, c'est-à-dire d'aller vers une autre structure où on va valoriser justement ton profil, valoriser tes compétences, ton expérience, ton parcours académique, te valoriser toi et non pas voilà la petite jeune qui est rentrée le premier jour et qui gravit les échelons étape par étape. Tu as pas pensé à ça?
Si, bien sûr que j'y ai pensé. Mais je suis restée dans cette structure parce que d'abord je suis de nature fidèle. Et quand je retrouve...
Fidèle, mais quand on est valorisé. Mais quand on n'est pas valorisé, oui. Là, ça devient... Mmh. C'est s'auto-flageller, en quelque sorte.
Disons que ça a pris du temps pour qu'il... On va dire qu'il régularise un peu ma situation. Mais j'aimais bien cet endroit. J'aimais bien certaines personnes. J'abondais dans les valeurs qu'il véhiculait. Et comme on dit, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs.
Bien sûr.
Donc, je me disais, pour le moment, c'est vrai, je ne gagnais pas très bien ma vie, ça ne me suffisait pas pour. Mais à côté de ça, ce que j'avais, c'est que j'avais une tranquillité d'esprit.
Un environnement que tu maîtrisais.
On te valorise.
Mais les priorités changent aussi, Fatiha, à des moments de la vie. Par exemple, tu l'as dit toi-même, tu as dit à un moment... Bon, ben, ok, le père jouait pas son rôle. Moi, en tant que mère, c'est bon, je suis la mère de deux enfants. Et un d'eux, j'ai dû le retirer de l'école où il était parce que financièrement, je pouvais pas assurer. Est-ce que finalement, à ce moment-là, changer de structure, aller vers une multinationale qui paye beaucoup mieux, parce qu'en plus de ça, tu as les langues, tu as les compétences, tu as l'expérience, enfin, Zema, tu as tout ce qu'il faut pour mieux gagner ta vie. Est-ce que, voilà, est-ce que... J'arrive pas à comprendre, en fait. Je vais être honnête avec toi, mais j'arrive pas à te comprendre.
Eh bien, changer de travail, ça ne se fait pas un claquement de doigts, d'abord. Quand tu as une situation où tu dois prendre une décision rapide, où tu as un mois ou deux pour prendre la décision, voilà, tu peux pas être au four et au moulin.
Je comprends.
Et même physiquement et mentalement... Tu ne peux pas mener plusieurs batailles en même temps. Ton énergie, tu as 100, on va dire 100% quand tu te réveilles le matin, et encore si tu les as. Et ces 100%, ils sont incompressibles. C'est-à-dire que tu vas devoir prioriser et utiliser ton énergie à bon escient. Donc, tu utilises déjà 80% de ton énergie, si ce n'est pas plus, au travail, déjà. Donc, quand tu sors du travail, tu dois faire face déjà à la fatigue, au stress, à la conduite, à acheter ça, à payer ça, à se rappeler de ça, à gérer ci, à gérer ça. Tu rentres à la maison, tu es épuisé. Tu as encore les enfants.
Bien sûr.
Très bien, alors il faut faire ci, ça.
C'est vrai de réfléchir à...
Mais pas l'énergie d'attaquer un nouveau front. Tu ne peux pas faire tout en même temps. C'est difficile. L'énergie se dilapide, on va dire. Et tu te dis, bon, je vais être un peu patiente. Et pour le moment, je dois me remettre sur pied. Et je fais ce qu'il y a de mieux pour demain. Tu vois, tu avances à petits pas.
Et là, tu vas bien ?
Très bien. Oui.
Ton ado, elle va comment ?
Mon ado a bientôt 23 ans. Le temps fait des miracles.
Oui, bien sûr.
Après, on peut pas leur en vouloir, surtout quand tu es ado. C'est un autre câblage, voilà.
Tu as pas une vie facile, hein, Fatiha. De femme à femme, je te le dis, honnêtement.
Non. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis en même temps. C'est parce que j'ai réussi à dépasser ces épreuves qui ont été cauchemardesques. J'utilise bien le mot cauchemardesque parce que je n'aime pas être dans la victimisation. Je refuse parce que être victime, c'est ça l'échec. C'est quand tu tombes, tu ne te relèves pas. Et tu restes à dire oui, j'ai subi ça, on m'a fait le, li, la, elle, eux, lui, à cause d'eux. Et je refuse ça. Donc, je n'aime pas et je ne veux pas commencer à revenir sur un passé qui était moins glorieux. Mais en même temps, je me dis, c'est ce passé qui me détermine aujourd'hui et qui fait ma force aujourd'hui. Donc, sans ce passé, sans ces expériences difficiles, dures, douloureuses, qui se sont répétées, déception, injustice, violence. Je ne serai pas qui je suis aujourd'hui.
Est-ce que tu sais pourquoi ça s'est répété? Parce qu'on dit que lorsque le même schéma se répète, c'est que inconsciemment, on le cherche, inconsciemment, on l'attire. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'est répété? Je ne sais pas. Enfin, est-ce que tu as vécu ça quand tu étais plus petite? Est-ce que c'était un modèle de fonctionnement? Qu'est-ce qui a fait que tu te sois retrouvée dans ce modèle répétitif?
Bien, quand j'ai eu le deuxième divorce, je me suis dit, ok Fatia, donc une fois c'est une erreur. Tu savais plus ou moins que c'était peut-être pas sûr. Deuxième fois, c'est pas une erreur, c'est un schéma, c'est-à-dire c'est un programme. Et donc, je me suis rapprochée et énergétiquement, j'ai fait un travail énergétique. D'ailleurs, même avant que je ne divorce, parce qu'il fallait que je me prépare, que je me défasse de la culpabilité, parce que c'est moi qui demandais le divorce. Et donc, il y avait un lourd travail à faire pour ne pas culpabiliser par rapport aux enfants. Et donc, il y avait toujours ce travail que je faisais, déjà. C'est très important. Parce que c'est des couches, en fait. Chaque fois, tu nettoies une couche. Chaque fois, tu fais sortir des programmes anciens. Chaque fois, tu te libères, tu te défais. Tu as des attaches transgénérationnelles aussi, dont il faut aussi se détacher. J'ai beaucoup travaillé en Reiki, en kinésiologie. Et la kinésiologie m'a beaucoup aidée parce que justement, elle m'a permis de comprendre pourquoi à chaque fois j'attirais.
Et c'est pourquoi en fait.
J'ai trouvé mes réponses et j'ai trouvé les réponses. Après, la kinésiologie m'a permis de me défaire un peu de mes liens transgénérationnels. Oui. C'est des schémas qu'on a dans notre subconscient, que ce soit la société, l'entourage, les parents, où on ne t'a pas donné assez d'estime en toi et tu ne connais pas ta vraie valeur, en fait. Tu vois ? Et c'est après que tu te rends compte, mais mince, waouh, bien sûr, je suis chouette, waouh. Et voilà, donc ça a été aussi un travail. Et ça continue toujours. C'est comme quand tu manges, tu te nourris, tu vas au petit coin et tu continues. C'est un processus. Donc, le processus...
Tu crois encore en la vie à deux, en l'amour, en le couple?
Complètement.
Oui, c'est vrai?
Oui, complètement. C'est dans mon travail, justement, quand je dis mon travail, c'est-à-dire mon travail en développement personnel et dans les thérapies, et puis la religion aussi, la spiritualité pour moi est très très importante. Elle m'a apporté beaucoup de réponses aussi à mes questionnements. L'homme et la femme n'ont pas été créés pour vivre seuls d'abord. Okay, ils ont été créés pour vivre à deux, mais en harmonie. Donc, d'ailleurs, dans l'islam, c'est la seule religion qui autorise le divorce. Les chrétiens, quand ils se marient, c'est à la vie, à la mort, jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est-à-dire que le divorce est considéré comme illicite, en fait. Alors que dans l'islam, ils te disent...
Abradul halal inda Allah wa talaq.
Et donc, quand tu as cette compréhension, tu dis, ok, donc... Si je ne suis pas bien, je fais le travail, je fais l'effort, je me change, mais que mon fort intérieur, c'est clair qu'on n'est pas compatible, je suis face à un mur, il n'y a pas d'autre solution que de sauver sa peau. Parce que le bon Dieu nous aime. Il ne nous a pas envoyés sur cette planète pour souffrir. Non seulement il nous aime, mais en plus, il nous a donné un corps magnifique, sophistiqué, et il y a mis une âme. Une âme pour que ce corps abrite cette âme. Le corps n'est qu'une enveloppe charnelle, mais une très belle enveloppe charnelle. Oui. Et nous sommes les sujets de notre Créateur et on lui doit de prendre soin de cette âme et de ce corps. Et donc l'âme, c'est un peu le cœur, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle désire, c'est sa vocation, c'est trouver ce cadeau que le bon Dieu nous a donné, que Céterpé nous a donné, et prendre soin aussi du corps, de la maison, de l'enveloppe charnelle. Et ça, c'est un devoir, on se le doit. Donc quand on est dans des situations où on a mal, parce que la personne avec qui on vit, ça fait que c'est incompatible, insoluble, que tu as essayé, que tu fais des efforts, mais ça ne suffit pas, eh bien, il est de ton devoir de prendre ton courage à deux mains et de prendre une décision difficile et de la prendre. Mm. Mais tu la prends pour ta survie. Et tu la dois, tu te la dois,
exact.
Et tu la dois à ton divin.
Mais en même temps, tu ne perds pas foi dans l'autre, en fait.
Attends, non.
Voilà. C'est-à-dire que pour toi, c'est pas, ça fait deux expériences négatives qui ont chamboulé mon existence. Allez, pour moi, c'est fini, les hommes.
Tout à fait. En fait, non, parce que je suis dans la gratitude par rapport à ces hommes. Je les remercie aujourd'hui parce que c'est grâce à eux que j'ai compris et que je me suis mieux compris et que je connais mieux ma valeur aujourd'hui. Mm. C'est grâce à eux. Ils sont venus m'apporter, en fait, des informations sur moi-même. Moi, c'est comme ça que je vois ces expériences-là. Je n'ai pas de... C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai un peu mal, mais je me suis détachée, j'ai pardonné. Mmh. Pardonner ne veut pas dire on devient copain, non, non.
Bien sûr.
Pardonner veut dire je tourne la page, j'ai été abusée, j'ai été ci, j'ai été ça, mais aujourd'hui, ça ne va pas me définir. Ce n'est pas parce que j'ai été violée que... Tu comprends? C'est ça, pardonner. C'est lâcher prise.
Ouais.
Le mot pardon est très souvent mal...
Et tu l'as été, Fatiha? Tu as utilisé un mot très fort. Tu as dit, c'est pas parce que j'ai été violée que...
J'ai été abusée sexuellement quand j'étais petite, oui.
D'accord.
Plusieurs fois.
D'accord.
Et j'ai refusé de laisser ça me définir.
Mm.
Mais on a tous, tu sais, des traumas. Hein.
Ouais.
Il suffit d'aller gratter dans l'inconscient. Parfois, bien sûr, l'inconscient est très fort.
Mmh. Et c'est ton inconscient qui a fait sortir ce mot maintenant ? Tu t'attendais à le sortir ou pas ?
Non, j'ai pas de problème à le dire. Non, j'ai pas de problème à le dire. Mmh. J'ai travaillé sur ça, donc je peux lâcher ça autour d'une table si je le sens.
Ouais.
J'ai pas honte à le dire.
Ouais.
Voilà.
Honte, et non, pas honte, bien sûr. Enfin, je parlais pas de honte, mais je parlais de douleur, en fait. Et est-ce qu'il y a toujours cette douleur ?
Non.
Non.
Non. Non, je me suis détachée. J'ai travaillé sur tous ces traumas, tous les traumas que j'ai pu avoir. Et puis, il doit y en avoir peut-être d'autres. Mais en tout cas, au fur et à mesure que ça sort, plus tu travailles, plus tu te connectes au divin. Et puis, plus tu fais ton nettoyage, plus tu es en accord avec toi-même, plus tu es connecté avec toi-même et plus tu vas attirer de belles choses, en fait. Et par rapport à mes relations de couple, c'est un travail en continu. Et je refuse d'être amère et je trouve ça triste de voir des femmes qui ont eu un divorce et qui sont devenues extrêmement amères. Et je trouve ça triste, je les arrête tout de suite. J'ai dit, mais non, il y a des hommes fabuleux, même si j'ai subi aussi des épreuves douloureuses où les hommes n'étaient pas à la hauteur. Mais je me dis, bon, ils ont donné leur max, c'est leur max.
Tu en as parlé, pardon de t'interrompre, tu en as parlé à tes parents, à ta maman de des abus?
Non, j'étais trop petite.
Tu en as jamais parlé?
Non, jamais.
Ils sont partis sans jamais le savoir?
Non. J'ai bien fait de ne pas en parler.
C'est vrai.
Parce que généralement, tes abuseurs, c'est toujours des personnes que tu connais. Toujours des personnes que tu connais. Donc, imagine la culpabilité que ma mère aurait de m'avoir laissé avec une personne en qui elle a confiance. Et tu vois. Surtout, voilà. Et puis, j'avais honte. Généralement, quand tu es abusé sexuellement ou après un viol. Le sentiment, maintenant je le sais mieux parce que je du côté thérapeute, si tu veux, ce qui ressort, c'est que c'est la personne abusée qui pense que c'est à cause d'elle. Ça rate pas. Hein. Et je l'ai cru aussi.
Ouais.
Je veux dire, quand j'étais en thérapie par rapport à ça, Et j'étais sous hypnose. Je voyais cette scène. Je me disais, c'est à cause de moi. C'est moi qui voulu partir. Mais elle me dit, mais non, en fait, tu avais 8 ans. C'est pas possible. Tu faisais confiance à une personne qui était un adulte, que ta maman a validé. Mais c'est plus fort que toi. C'est le subconscient, il te fait des histoires. Surtout quand on est jeune, la réalité, on va dire le lobe frontal, n'est pas encore totalement développé.
Absolument.
Donc, on n'a pas un filtre rationnel tel que tu l'as aujourd'hui ou tel que je l'ai aujourd'hui. Et du coup, l'histoire qui défile va être différente. Et c'est ce qui crée, en fait, après des traumas, des perceptions erronées, des schémas erronés. C'est parce qu'on a eu une interprétation erronée de la situation, une interprétation subjective et non pas cartésienne. C'est les émotions qui ont pris le devant.
Voilà. À quel moment tu as décidé justement de prendre ce dossier-là de ta vie en main et de suivre une thérapie?
À quel moment?
Ouais.
Je pense que ça a été un travail en continu. Et c'est des niveaux, des strates qui viennent au fur et à mesure en fonction de la situation et de la douleur, en fait. Donc, je n'ai pas orienté ça. C'est venu plus tard, en fait. Ce travail-là est venu bien plus tard. En fait, c'est au moment où tu t'y attends le moins, ça ressort.
Ouais.
Et c'est ressorti alors que je travaillais sur autre chose. Dans la séance, je travaille sur quelque chose d'autre. Et c'est cette scène qui est remontée. Et une deuxième fois, je travaille sur autre chose. Tu ne peux pas imaginer comme le subconscient peut jouer avec toi. Je travaille sur les varices. Et c'est sorti. C'est cette scène qui est ressortie comme étant la cause. Et là, ça a été l'étincelle, ça a été le feu d'artifice. J'ai fondu en larmes, les gens ne comprenaient pas. Parce que dans la formation qu'on a fait, c'est des études de cas, c'est des cas pratiques. Donc tu t'entraînes.
Alors, oui. Écoute, je voulais voir avec toi, est-ce que parler du livre, de ce qu'il contient surtout, de cette périménopause, est-ce qu'on peut le faire, mais tu viens à Tanger, comme ça on filme?
Ok, avec plaisir.
Ouais, alors on organisera ça.
Ouais.
Bon.
Ouais, avec plaisir.
Alors Fatiha Fellous, à très vite.
Merci, merci beaucoup.
Merci Fatiha, je t'embrasse fort.
Très belle journée, très belle semaine.
Merci à toi aussi. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.